magazine des Nations Unies.
Bienvenue à tous. La MONUSCO serait disposée à accompagner le gouvernement congolais dans le processus de recrutement au sein des forces armées. Vous écouterez à ce propos les porte-parole de la mission dans quelques instants. Avec notre invité de ce dimanche, nous parlerons également de la mission onusienne, précisément du mandat actuel de la MONUSCO contenu dans la résolution 2053. Et puis, Honoré Missenga qui est avec moi dans ce studio nous dit de quoi il sera question dans la rubrique décryptage d'aujourd'hui. Bonjour Honoré.
Bonjour Mireille, bonjour à tous. Il sera question de décrypter ou de comprendre le concept MIDA et ses domaines d'intervention. MIDA, c'est Migration pour le Développement en Afrique, qui est un programme de l'OIM, Organisation Internationale des Migrations.
Merci Honoré, voilà tout pour les titres. Merci de rester avec nous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bon dimanche à vous tous qui nous écoutez en ce moment. La MONUSCO serait disposée à accompagner le gouvernement congolais dans le processus amorcé du recrutement au sein des forces armées. C'est ce qu'ont déclaré ce mercredi les porte-paroles civils et militaires de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo au cours de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire à Kinshasa. Honoré Missenga nous en dit plus sur cette actualité de la semaine.
Pour le porte-parole militaire de la MONUSCO, le recrutement national est une opération normale dans toute armée. Elle sert à régénérer les effectifs, mais aussi à les grossir et à leur donner une formation qualitative. Lieutenant-colonel Bass.
Nous avons vu que le gouvernement congolais a initié une campagne de recrutement à travers tout le pays pour essayer d'appeler de manière volontaire les Congolais qui le désirent à venir servir sous les drapeaux. La MONUSCO serait prête, si le besoin se faisait sentir, éventuellement et sur demande des FRDC, de les appuyer comme nous le faisons tous les jours et dans tous les domaines.
Manoj Mounoubaï, porte-parole civile, complète ses propos et précise.
La MONUSCO pourrait intervenir à trois niveaux. D'abord, s'assurer que des mineurs ne sont pas recruter, ensuite donner des formations en ce qui concerne les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Parce que ce sont des formations qui sont essentielles afin de renforcer le bon comportement de ces soldats sur le terrain.
Par ailleurs, au cours de la même conférence de presse, Manoj Mounoubaï a fait état de la préoccupation exprimée ce jour par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Roger Miss, suite au rapport sur de nouveaux massacres de civils et de destruction et pillage d'habitations et des biens dans les territoires de Massissi au Nord Kivu au cours de ce mois d'août. Des violences dont certaines sont commises par le groupe Raia Mutomboki et d'autres par l'FDLR, a précisé le porte-parole de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Et là, nous parlons de MIDA, Migration pour le Développement en Afrique, qui est un programme conçu par l'Organisation Internationale pour les Migrations, OIM en sigle. Alors, nous recevons dans cette émission Madame Sabine Boltken, coordinatrice de ce programme pour les Grands Lacs. Elle nous explique ce que signifie ce concept MIDA et les domaines de son intervention. Madame Sabine Boltken s'entretient avec Honoré Missenga. Suivons-les.
Madame Sabine Boltken, bonjour.
Bonjour.
MIDA est un concept développé par l'OIM, Organisation Internationale pour les Migrations. C'est quoi et pourquoi MIDA, madame?
Merci. Alors en effet, Migration pour le Développement en Afrique est une approche qui a été développée par l'OIM au début des années 2000, alors 2000-2001, et il s'agit de répondre de manière efficace au phénomène qu'on appelle la fuite des cerveaux. Alors l'idée de base, c'est de mettre à disposition de la région d'origine les capacités et les ressources de la diaspora qui réside maintenant en Europe, par exemple.
Oui, mais quelle est la couverture géographique de ce programme MIDA?
Le programme MIDA Grand Lac, qui est financé par la Belgique depuis sa première phase en 2001, couvre la région des Grands Lacs, ceci dit RDC, Rwanda et Burundi. Nous mettons donc en œuvre des projets dans ces trois pays-là, et tous ces projets, toutes ces activités sont financées par le Royaume de la Belgique.
Quels sont les domaines prioritaires de ce programme?
Le programme MIDA intervient dans trois secteurs. Ce sont les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement rural. Ces secteurs ont été définis ensemble avec les partenaires locaux dans les trois pays couverts, donc aussi en RDC, et il s'agit donc des secteurs d'intervention qui sont en ligne avec les documents stratégiques du pays pour réduire la pauvreté.
Madame Loyem a lancé depuis 2009 une vingtaine de projets, des programmes MIDA dans les pays des Grands Lacs, RDC, Burundi et Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'approche des projets et nous citer quelques exemples?
Le programme MIDA Grands Lacs, comme j'ai déjà mentionné, a été lancé en 2001 et a connu différentes phases de mise en œuvre. Nous sommes alors dans la quatrième phase de mise en œuvre pour l'instant. Cette phase a été démarrée en 2008 et a été fonctionnelle ou disons opérationnelle à partir de janvier 2009. Et nous avons alors une toute nouvelle approche à partir de cette quatrième phase. Et en effet, il s'agit de l'approche projet. Imaginez un peu, alors ce qu'on a fait avant avec le programme MIDA, il s'agissait donc de mettre à disposition, comme je disais, l'expertise de la diaspora pour des institutions qui sont alors dans la région et interviennent dans un des secteurs mentionnés. Alors par exemple, dans l'éducation, nous parlons donc de renforcer les capacités dans des institutions de l'enseignement secondaire ou dans des universités. Alors, ce qu'on avait fait avant, c'était alors sur base de demandes et de termes de référence, de profils définis par exemple, une institution du secondaire ou une université, nous avons identifié un expert ou une experte qui venait donner des formations dans l'université. Maintenant, à partir de la phase 4, nous intervenons plus uniquement sur demande ponctuelle comme ça des institutions demandantes, mais nous avons sélectionné 24 institutions et leur donné du soutien pendant 36 mois. Ça veut dire qu'une institution comme par exemple l'Institut National de Recherche Biomédicale, qui est parmi nos bénéficiaires, a défini en 2009 son objectif et a eu 36 mois de duration de projet, dans le cadre duquel ils ont eu droit à 8 ou 9 missions d'experts qui interviennent pour renforcer leurs capacités, notamment dans ce domaine-là, d'introduire la possibilité d'étudier des cours de génétique, d'étudier la génétique à l'université de Kinshasa et de Lubumbashi à travers l'intervention des experts MIDA, ce qui n'avait plus été le cas depuis 1968. Nous avons plusieurs projets dans le domaine du développement rural. Par exemple, nous avons un projet avec l'Ifayangambi, qui est alors une institution très connue, qui a été très rénommée dans le temps et qui a connu certaines faiblesses ces derniers temps et qui a donc un besoin accru en renforcement de capacités.
Ces migrants que vous contactez pour venir dans leur pays donner un coup de main, est-ce qu'ils réagissent spontanément, ils ne vous posent pas de conditions?
Bon, alors il faut dire que tout cela, bien sûr, il y a beaucoup de conditions dans ce sens qu'il s'agit d'un programme qui est maintenant mis en œuvre depuis 12 ans. Il existe une base de données qui est alimentée, disons, par l'OIM à Bruxelles et c'est dans cette base de données que depuis 12 ans, toute personne qui est issue de la diaspora, ça veut dire qui est à la base ou bien congolaise, rwandaise ou burundaise et qui réside de manière légale dans un des pays de l'Union européenne, a la possibilité de s'inscrire dans cette base de données, de définir ses compétences, de mettre à disposition son CV. Comme ça, nous pouvons faire recours à cette personne pour l'envoyer en mission. Et ce qui est très important à dire et ce qui souligne davantage alors l'engagement de ces experts, il faut dire qu'il s'agit alors des interventions qui se font sur base de bénévolat, ça veut dire que ces personnes-là viennent à côté de leur vie habituelle, ça veut dire la grande maxime de MIDA de les débuts, c'était de dire est-ce que vous voulez contribuer au développement de votre pays sans être forcé tout de suite d'y retourner. Parce que comme nous savons, il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes dont nous parlons, qui sont professeurs d'université, des docteurs dans des hôpitaux et autres, qui ont toute une vie, qui ont peut-être la famille, les enfants, qui sont dans le système alors européen et qui n'ont pas forcément envie maintenant de casser les ponts, disons, avec leur pays de résidence, mais qui veulent tout au moins quand même contribuer au développement. Et il s'agit donc de ces personnes-là qui peuvent alors partir en mission MIDA pendant leurs vacances, quand ils ont certaines possibilités entre deux emplois ou dans d'autres situations qui peuvent intervenir. Ils partent donc et ils signent un contrat avec l'OIM et ils partent quand même sur base de termes de référence, de contrat et sur des conditions certainement très détaillées. Ça veut dire que ce ne sont pas des missions qui se font juste comme ça spontanément, ce sont des missions qui se font dans le cadre de projets pluriannuels qui sont planifiés et qui répondent à un besoin défini par les bénéficiaires à la base.
Vous venez de suivre la Madame Sabine Dostken. Je rappelle qu'elle est la coordinatrice du programme IDA Grand Lac, dont le siège est à Bruxelles, la Belgique étant le bailleur des fonds des projets de ce programme. Les nouvelles en bref, avec d'abord ces plus de 14 000 Congolais qui s'étaient réfugiés au Congo-Brazzaville à la suite des troubles de 2009-2010 qui ont déjà regagné leur milieu d'origine, notamment dans les territoires Kungu, Libengue et Bomongo au sud de Bangui, selon le HCR. L'opération de rapatriement volontaire de ces réfugiés de la RDC a commencé en mai dernier et le HCR précise que le prochain convoi permettra de franchir la barre de 15 000 personnes rapatriées. Par ailleurs, toujours dans le même registre, le HCR annonce l'avancement des travaux de construction du site d'accueil des réfugiés centrafricains à Worobe, une localité située à 15 km de Zongo, toujours dans la même province de l'Équateur. Ces réfugiés centrafricains ont traversé la rivière Ubangi pour fuir les attaques d'un groupe armé dans leur pays. Équateur toujours, pour parler développement, la deuxième phase du projet Programme d'appui à la relance du secteur social et agricole PARSA a été lancée en début de semaine à Guémena. Il s'agit des travaux de construction d'un marché public à Mogalo, d'un entrepôt ainsi que la réhabilitation des routes dans le district du sud d'Ubangi. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars américains, selon le ministre provincial de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie officielle du lancement. Terminons par cette nouvelle qui nous vient de l'UNOPS. 14,3 milliards de dollars américains, c'est le montant total dépensé en 2011 par les Nations Unies dans les activités d'achat de biens et des services. En comparaison des dépenses de la période précédente, l'UNOPS indique une légère baisse, la première depuis 10 ans, de 1,9%. Fin de nouvelles en bref. Merci de rester avec nous pour écouter ce dont va nous parler notre invité du jour.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Pendant deux mois, la mission onusienne a mené à Kinshasa une campagne d'information et de sensibilisation au mandat de la MONUSCO tel que défini par la résolution 2503. Cette campagne s'est clôturée jeudi 30 août dernier et pour en parler, nous recevons comme invitée ce dimanche Madame Aissatou Touré. Elle est coordonnatrice de l'unité Outreach ou communication sociale à la division de l'information publique de la MONUSCO. Madame Aissatou, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan dressez-vous par rapport aux objectifs que vous vous étiez assigné?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous nous faites. Je voudrais aussi saluer les auditeurs de magazine de l'ONU. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan, tout simplement parce que la résolution 2053 vient d'être adoptée par le Conseil de sécurité au mois de juin.
Mais par rapport à la campagne menée?
Parfaitement. Je vais dire que ça va être toute l'année, la campagne. Nous venons de terminer une première séquence d'informations sur cette résolution. Un bilan positif, que puis-je dire d'autre? Je pense que c'est à ceux à qui nous nous sommes adressés qui pourraient éventuellement juger. Mais ce que nous nous en tirons, pour l'instant, c'est que nous avons été écoutés. Lorsque nous avons invité les populations à venir nous rencontrer pour leur parler, pour faire un exercice didactique d'explication sur le travail de la MONUSCO et le pourquoi du renouvellement de ce mandat, ces populations sont venues. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose d'être écouté.
Et à quelle catégorie de public vous êtes adressé particulièrement?
Tout public, parce que pendant ces deux mois, nous avons eu affaire à des ONG, des associations, des regroupements de jeunes, de femmes, de moins jeunes aussi, comme l'Association des Nations Unies qui regroupe beaucoup d'enseignants, qui regroupe des étudiants, des intellectuels, mais également des cadres moyens et des hauts cadres. Donc c'est vraiment tout public et toutes ces personnes doivent être touchées par notre message, par notre travail, parce que la population congolaise n'est pas une, elle est multiple.
Vous avez reçu toutes les couches de la population. Est-ce que nous pouvons savoir sur quelles questions revenaient souvent vos interlocuteurs?
Essentiellement sur, par exemple, pourquoi le mandat de la MONUSCO, MONUC d'abord, MONUSCO ensuite deux fois, a été renouvelée. Également, que font ici les forces des Nations Unies, alors qu'on sait que dans une partie du territoire de ce pays, il y a des difficultés. Ce sont des questions qui nous sont posées et auxquelles nous répondons volontiers, avec l'appui bien entendu des autres collègues des sections concernées, la composante militaire, les policiers, la composante droits de l'homme, la section politique, le SIDA. Toutes ces personnes viennent en tant que spécialistes nous appuyer dans cette démarche pour répondre aux questions de manière très spécifique. Parfois ce sont des questions qui peuvent heurter, qui peuvent être difficiles pour nous. Que faites-vous là? Vous êtes nombreux, etc. Alors qu'on ne voit pas le résultat. Et tranquillement, nous leur disons, par exemple, que nous sommes là, par exemple, pour les élections. Nous étions là et nous sommes là et nous serons là pour un appui logistique, technique. C'est ce qui a été décidé entre les Nations Unies et le pays hôte. Nous ne pouvons pas faire autre chose que ce qui a été déjà signé, décidé et d'un commun accord entre différentes parties. Donc tranquillement, nous essayons de répondre à toutes ces questions.
Et vous pensez que le message a été reçu 5 sur 5?
Peut-être pas 5 sur 5. Parce que nous sommes dans une démarche de pédagogie. Cela veut dire que nous allons nous répéter. Et c'est, je pense qu'avec le temps, que les gens ici, et on le comprend, que ces personnes-là ne soient pas au fait et au courant de ce que fait la MONUSCO, parce qu'on ne le clame pas tous les jours. Donc c'est tout à fait normal. 5 sur 5, non, mais je pense qu'avec le temps, dans la durée, cela pourra être le cas.
Et puisque vous pensez vous rendre plus visible, quelle est la prochaine étape après Kinshasa?
Tous les secteurs sont impliqués dans cette démarche de sensibilisation pour l'explication du travail de la MONUSCO. Ici, effectivement, c'est le centre, on va dire. L'équipe centrale est là. Mais vous savez que dans chaque secteur, il y a des Public Information Officer, PIO, comme on dit. Donc, qui sont en charge, eux, de leur côté et à leur niveau, de faire le même travail. Donc, mais au niveau des secteurs, il y a d'autres gens qui font le travail.
Alors, le magazine des Nations Unies va aussi participer en faisant arriver votre message partout. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques lignes le mandat de la MONUSCO? Comme ça, tous les auditeurs dans les provinces et partout vont vous suivre.
D'accord. Le mandat de la MONUSCO est assez vaste. On va être très synthétique en disant que pour cette année, puisque la résolution couvre l'année 2012-2013, pour cette année, l'accent a été mis pour le travail de la MONUSCO ici, l'accompagnement que nous faisons au niveau des autorités, des institutions sur la protection des populations, en faisant en sorte que ces populations-là puissent être protégées. Et c'est le travail de la force militaire pour cette protection-là. Les autres composantes ont leur part dans ce mandat. Il y a également comme autre point sur lequel l'accent a été mis cette année, c'est le secteur, la réforme du secteur de la sécurité. Évidemment, on reviendra peut-être très rapidement sur les autres aspects du mandat. Le mandat, par exemple, pour ce qui nous concerne, l'information publique, nous dit clairement qu'il faut que nous nous fondions dans la population. C'est-à-dire que nous allions à l'intérieur même de là où se trouve la vraie réalité de ce pays pour leur parler. Pour parler de tous les idéaux des Nations Unies. Que ce soit la paix, que ce soit le respect de la femme, que ce soit l'arrêt des violences sur ces femmes-là, que ce soit l'arrêt de l'utilisation des enfants dans les conflits armés, que nous allions en profondeur dans cette population-là pour pouvoir lui parler et expliquer le travail que nous faisons. C'est quelques aspects du mandat sur lesquels nous pensons que cette année, l'accent a été mis, évidemment, l'appui aux élections locales également.
Bien, Madame Aïssatou Touré, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'unité Outreach ou Communication Sociale à la division de l'information publique de la MONUSCO. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
La nouvelle de province de ce dimanche nous est proposée par le Sud Kivu, qui est engagé dans une stratégie commune du développement durable. Et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage aussi à l'y accompagner. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir des échanges que les partenaires internationaux dans le PNUD ont eu en début de semaine à Bukavu avec les autorités provinciales et les représentants de différentes couches sociales de la place. L'objectif de ces échanges, élaborer une stratégie commune de développement durable au Sud Kivu, comme nous l'explique Jean Kassami.
Pour le gouverneur de province, Marcel Tshishambo, la province attend beaucoup de cette rencontre. Il met l'accent sur les routes car selon lui, c'est l'un des secteurs clés du développement durable.
Moi j'ai toujours pensé que la route chasse l'insécurité et induit le développement. Nous avons toutes les routes léguées par les colonisateurs sont à refaire. Je prends un cas, au-delà de Mwenga, dans un endroit qu'on appelle Kipori, il y a un problème de route défoncée.
Fabien Models, conseiller technique principal pour le programme ONU-RED, chef de mission, a déclaré qu'il incombe aux seuls fils et filles du Sud Kivu de désigner les secteurs jugés prioritaires pour un développement durable. Toutefois, il suggère quelques axes incontournables.
Dans le contexte du Sud Kivu, l'amélioration des pratiques agricoles et des rendements est un élément clé. Il y a la question énergétique, avec tout le potentiel hydroélectrique est extrêmement important. Il y a des questions par exemple autour du secteur minier. Comment est-ce qu'on peut naturellement exploiter les richesses du Sud Kivu, mais d'une manière qui préserve les ressources naturelles comme la forêt par exemple.
Ont participé à cette rencontre le gouvernement provincial, le bureau de l'Assemblée provinciale, les chefs de chefferie, les administrateurs territoriaux, la société civile, le monde scientifique ainsi que les représentants du secteur privé. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait visible.
Je m'appelle Serge Loukosa. Je suis assistant de sécurité des Nations Unies actuellement. Avant, j'ai fait l'ISTA, je suis ingénieur, j'ai fait l'électromécanique à l'ISTA et puis j'ai travaillé dans les groupes GAP pendant 9 ans. Et après, comme j'avais une formation policière, je me suis intégré dans la sécurité des Nations Unies pendant 9 ans. C'est là où j'exerce mes fonctions. Bon, notre travail est en premier lieu de sécuriser les personnels UN, y compris les biens des Nations Unies. En contrôle des accès, la réception, l'entrée des véhicules, des matériels des Nations Unies, l'entrée et la sortie des matériels des Nations Unies, contrôler les property pass, si ces derniers ont été vérifiés par nos collègues de Delta, y compris nos collègues de sécurité des Nations Unies, sécurité interne. Donc nous sommes de sécurité interne et il y a la sécurité externe, les Delta, parce qu'auparavant on avait travaillé avec les Maguignans. C'est ça notre travail, dans la sécurité. Marié, père de 4 enfants, je suis congolais. Oui, surtout les Rumba, Grand Calais, Luambo, Kofi Olomide, Zaïko, j'adore. J'ai travaillé à Kobega comme imprimeur, j'étais imprimeur, et là je faisais la lithographie, donc l'impression sur tôle, les bouchons, c'est ce que j'ai fait pendant 9 ans. Après, j'ai quitté la Kobega pour la MONUSCO en 2003, j'avais passé les tests en 2003 et j'avais été recruté en 2004. Comme assistant de sécurité. Bon, la sécurité c'est vaste, hein. La sécurité c'est vaste, si je commence à vous expliquer ça prendra du temps. C'est vaste. Bon, nous avons, parce que nous, le système des Nations Unies, parce que vous avez l'horaire du mois, parce que actuellement j'ai fait de 7h à 15h, après 15h, moi je cherche mes amis pour prendre un peu un pot, parler de la vie. Dès 18h, je rentre à la maison pour voir mes enfants et ma femme.
À vous de vous exprimer à présent dans votre magazine.
Magazine des Nations Unies. Question des Nations Unies.
Je suis Willy Ndongala, étudiant en médecine à l'UNIKIN. Pour la 9e fois, l'épidémie d'Ebola refait surface dans notre pays. Jusque-là, nous n'avons que des méthodes de prévention que nous donne l'OMS. J'aimerais savoir si cette agence onusienne met en place des mécanismes d'éradication de la maladie, notamment un vaccin. Merci. Il faut vraiment qu'il me réponde parce que c'est vraiment urgent.
Merci Willy Ndongala. Restez avec nous parce que le docteur Vital Mondongue, chargé de la lutte contre la maladie à l'OMS RDC, qui est en ligne, vous répond.
Oui, merci bien. Je pense qu'il a raison de dire qu'il y a une répétition des épidémies des fèves hémorragiques, notamment Ebola. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas un traitement à tant que tel, un vaccin ou un médicament qui est connu comme le traitement d'Ebola. Mais les recherches continuent, et bon, il n'y a pas encore de perspectives évidentes pour le vaccin, pour le moment et pour le médicament. Mais je pense que nous n'avons pas cessé de le répéter, que c'est, il y a moyen de se prévenir contre cette maladie en essayant d'améliorer nos comportements, surtout les personnes qui vivent dans les zones des forêts où il y a des animaux qui peuvent être considérés comme des réservoirs, notamment les chauves-souris ou bien d'autres animaux qui peuvent être aussi être affectés par la maladie. Par exemple, les singes, et ainsi de suite. Les gens doivent développer des comportements favorables pour éviter la maladie. Hein, notamment le fait de ne pas ramasser des animaux morts dans la forêt. Et lorsqu'il y a des cuissons à faire avec le gibier, il faut quand même éviter de toucher l'essence et tout dans des zones où on a déjà déclaré l'épidémie. Je pense qu'il y a un minimum de précautions pour l'hygiène des mains quand on fait la cuisine et éviter vraiment qu'on ait des petites plaies pour pendant la cuisson. Et donc, et surtout lorsque l'épidémie est déclarée, je pense qu'il faut même prohiber de manipuler les gibiers. Oui, les recherches, c'est possible. Vous savez que les recherches, c'est un champ, c'est un grand champ. Et ça s'est fait par étapes. Le premier champ, c'est il faut avoir la maîtrise sur la nature du virus, sur son réservoir, et par la suite commencer à voir comment on peut penser au vaccin ou à d'autres médicaments. Mais pour le moment, même pour son réservoir, on a quelques idées, mais on n'a pas encore fini de faire les contours de la situation.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un seul rendez-vous à retenir la semaine prochaine. Vous savez que le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le monde par l'UNESCO. Et cette année, en République démocratique du Congo, une table ronde sur l'alphabétisation autour du thème « Cultiver la paix » est prévue le 7 septembre à Kinshasa. Voilà tout pour ce dimanche. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine, une édition coordonnée par Honoré Missinga, qui était également en reportage. Ben Kabamba l'a supervisé et Mireille Bukasa Mukendi vous l'a présenté. Merci de rester de nôtre pour suivre la rediffusion à 19h03, heure de Kinshasa. À la prochaine.